Donc, on est au chapitre 25 du livre des Actes. La dernière fois, on avait vu que l'apôtre Paul avait dû se défendre devant le gouverneur Félix. Et Félix, peu scrupuleux en fait, qui cherchait que ses propres intérêts, a laissé finalement l'apôtre Paul pendant 2 ans en prison. Imaginez ça, 2 ans en prison, c'est long, hein? On oublie ces 2 ans où là, il était isolé en prison. Ce n'était pas comme quand il était à Rome ou en d'autres lieux où là, il était assez libre. Ici, là, apparemment, eh bien, il était coupé de l'extérieur. Et puis ensuite, l'apôtre Paul va devoir maintenant se défendre devant Porcius Festus, qui était le successeur de Félix. Et puis, Festus va avoir la visite du roi Agrippa. Et donc, Paul va se défendre après devant le roi Agrippa. Donc, on va lire ensemble, on va lire 2 chapitres. Alors, ça va être un petit peu long, mais ça va nous donner le contexte. On va avancer là, dans ce livre des Actes, chapitres 25 et 26. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils lui firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fasse venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. « Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. » Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit « C'est devant le tribunal de César que je comparerai. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux, j'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit « Tu en appelé à César, tu iras devant César. » Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme, contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et, sans différer, je siégeai le lendemain au tribunal et je donnai l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais aussi entendre cet homme. »« Demain, répondit Festus, tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns, les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. » Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et c'est donc tout ce passage qui va nous intéresser ce matin. Paul ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi ? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement. » car je suis persuadé qu'ils n'en ignorent aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ?» Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. » Et au travers de ce texte ce matin, j'aimerais vous parler de la connaissance et de l'ignorance. Est-ce que nous sommes coupables lorsque nous négligeons de faire ce que nous ignorions? Par exemple, j'arrive dans la rue, il n'y a rien, aucune signalisation qui montre que c'est payant, je ne vois rien, pas d'horodateur, pas de trace, je me gare, je me prends un PV, est-ce que je suis coupable? Mais non, Hein, on va me montrer les panneaux en disant, mais c'était là. De la même manière, est-ce que nous sommes innocents lorsque on néglige de faire ce que nous savions? Par exemple, on arrive, c'est marqué payant, mais voilà, on se gare et on fait comme s'il n'y a rien. Eh bien non, on sera coupable et on se prendra aussi une amende. Et la Bible est très claire au sujet de ces deux questions, c'est que Dieu va faire une différence dans son jugement en fonction de notre connaissance réelle de la vérité. Qu'est-ce que nous savons finalement? Ou bien, qu'est-ce que nous ne savons pas, nous, notre ignorance? Ce qui signifie aussi que plus notre connaissance augmente et plus notre responsabilité augmente. Dans ce qu'on a lu ici, on voit trois personnages, donc Paul, Festus, Agrippa, qui vont voir leur responsabilité augmenter, hein, pour certains subitement, parce que leur connaissance de la vérité va augmenter. Et la question, c'est celle-ci, que vont-ils faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette connaissance qui va leur être donnée? Jésus a dit, on peut prendre Luc 12, 47 à 48, si vous n'avez pas de Bible, on va essayer de l'afficher derrière en même temps. Luc 12, 47 à 48. Il dit, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Et dans ce passage, on voit qu'il y a un rapport entre la connaissance et la responsabilité. Si vous êtes ignorant, ben vous êtes ignorant. Et vous serez responsable uniquement pour ce que vous savez. Par contre, si vous savez, alors là, ben, vous savez. Et vous êtes responsable de la connaissance que vous avez reçue. Une question qui revient aussi souvent dans les conversations, c'est mais qu'en est-il de personnes qui sont dans une tribu lointaine, dans une île, là-bas, ils ont peu de connaissances, etc. Mais la Bible répond que le jugement de chacun sera en fonction de la connaissance. Dans l'Épître aux Romains, on ne va pas le prendre ce matin, mais vous pourrez le lire au début, dans les premiers chapitres, Dieu nous donne par Paul des indices concernant le jugement. Lorsqu'il dit par exemple que le jugement sera selon la vérité, ça veut dire que personne ne pourra remettre en question le jugement. Ça sera selon la vérité. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu compte tout. Donc personne ne pourra dire « Ah non, c'est injuste ». Non. Ça sera selon la vérité, premièrement. Le jugement sera inattaquable. Deuxièmement, Paul, dans Romains, dit que Dieu va tenir compte des œuvres des uns et des autres. Alors, certains mettent beaucoup l'accent sur les œuvres bonnes en se disant « Mais ça va, j'ai des bonnes œuvres à mon actif. » Mais Dieu va tenir compte de toutes les œuvres, et aussi des œuvres mauvaises. Et ce n'est pas les bonnes œuvres qui vont nous condamner, mais nos œuvres mauvaises. Hein. Et Dieu... Eh bien, compte tout sur des livres, rien n'échappe au Seigneur. Troisièmement, Paul dit, le jugement sera selon la conscience seule pour ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, n'ont pas la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ont la loi de Dieu, alors ils seront jugés selon la loi de Dieu et aussi selon leur conscience. Hein. Et même les païens qui n'ont pas la Bible, Dieu dit que leur conscience les pousse à faire naturellement ce que dit la loi, c'est-à-dire le bien et le mal. Et donc, s'ils transgressent leur conscience, ils sont coupables devant Dieu. Et puis, pour finir, Paul dit que le jugement sera selon l'évangile de Jésus-Christ. Selon qu'on a connu la bonne nouvelle, Jésus-Christ crucifié, son sang versé, ou bien qu'on n'en a pas eu la connaissance. Et selon qu'on y a répondu ou non, finalement. Mais aujourd'hui, on peut dire que presque, on arrive bientôt hein, à la fin, presque toute la terre a pu entendre l'Évangile. Je vous recommande encore André Touche et sa famille hein, qui ont été un peu dans notre église. Ils vont partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, on est en train de grappiller là petit à petit et d'arriver à toucher les dernières tribus qui se trouvent sur la terre. On leur annonce l'Évangile. Et Dieu n'attend pas de tous les hommes la même chose. il pèse, il mesure ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous savons. C'est pour cette raison que Jésus a dit, Matthieu 11, 21, « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Et Jésus continue, je vais aller jusqu'au verset 24. « C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Et là, Jésus prend différentes villes qui ont reçu, qui ont eu le privilège de le voir marcher dans les villes. Il était dans leurs rues, il faisait des miracles, il guérissait, il parlait avec autorité, ils étaient au milieu d'eux. Et il dit que finalement, ces villes-là, eh bien, elles ne vont pas recevoir la même rétribution que des villes qui ont peut-être fait pire en termes de péché, mais qui, eux, n'ont pas eu la connaissance de Jésus-Christ. Alors, eh bien, ces trois villes juives, Bethsaïda, Capernaum, Chorazine, seront plus responsables encore que Sodome. Imaginez ça. Responsables. Donc, la connaissance que Dieu nous accorde nous rend responsables devant lui. Alors, revenons à notre texte. Quelle responsabilité pour Saul de Tarse, pour Festus et pour Agrippa ? D'abord, on se penche sur Saul, qui va devenir donc plus tard l'apôtre Paul. D'abord, on comprend que Saul était dans l'ignorance. Il dit en Actes 26, 9, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ. » Et on voit ici, Saul n'a pas pris le temps de vraiment réfléchir, de vraiment penser, mesurer qui était Jésus-Christ. Donc, il a cru devoir agir en toute bonne foi, entre guillemets. Eh bien, il pensait que vraiment Jésus-Christ était un usurpateur, en fait. Quelqu'un qui n'était pas ce qu'il disait. Ailleurs, dans un autre passage, je vous lis, il dit « J'étais auparavant blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Donc, il le dit lui-même, « J'étais ignorant, en fait. Je ne voyais pas clair. » Et donc, je pensais que Jésus n'était vraiment pas le Messie. Et je croyais, on peut imaginer qu'il croyait les mensonges qui avaient été dits au sujet de Jésus-Christ. Parce que, bien sûr, on ne manquait pas de dire que la résurrection, c'était n'importe quoi, que c'était ses disciples qui avaient volé le corps, etc. Donc, et l'apôtre Paul, enfin Saul, le croyait. Et Dieu a laissé Saul continuer dans son péché, au moins pour un temps. Il est dit ici, on voit la liste des crimes qu'il a commis envers les chrétiens même. Et Dieu le laisse faire. Il le laisse persécuter les chrétiens, les faire blasphémer même. Et ça nous montre que Dieu peut laisser l'homme continuer dans son péché. Il le laisse. Et les exemples sont nombreux d'hommes et de femmes qui ont continué dans leur péché pendant des années, peut-être même des décennies. Et peut-être que vous, personnellement, vous avez un arrière-plan qui est plutôt sombre, peut-être un arrière-plan, d'abus, d'excès, de grossièreté, d'adultère ou d'autres péchés qu'il n'est pas utile de nommer. Et Dieu vous a laissé dans votre péché. Peut-être vous a-t-il laissé jusqu'à présent dans votre péché. Mais finalement, ici, sur le chemin de Damas, Dieu va parler à Saul de Tarse. Saul va avoir cette vision, cette lumière, et il va lui dire, verset 14, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et c'est intéressant parce que cette parole, il nous est dit dans le texte que Jésus lui a dit en langue hébraïque. C'est-à-dire dans une langue claire, une langue compréhensible pour Saul de Tarse. Il ne lui a pas parlé en celte ou en élamite ou dans une langue mystérieuse, incompréhensible, Non, il lui a parlé dans la langue que Saul connaissait bien. Et on peut dire que dans la vie de l'homme, il vient un temps où Dieu décide de lui parler. Et lorsqu'il s'adresse à nous, il s'adresse à nous dans un langage qui nous est compréhensible. Il veut qu'on entende. Donc, il nous parle d'une manière qui est claire. Et c'est très important. Le jugement sera selon la vérité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'excuse devant Dieu. Personne ne pourra pas dire « Ah, mais je ne t'ai pas entendu, Seigneur. Vraiment, je n'ai rien entendu. Ce n'était pas très clair. Je ne pouvais pas comprendre ce que tu me disais. » Non, ce sera selon la vérité. Tu as entendu. J'ai parlé. C'était suffisamment clair pour que tu comprennes. Lorsque Dieu s'adresse à une personne, il le fait de manière à ce que la personne puisse l'entendre, qu'elle puisse le comprendre. Et Saul n'a pas fait mine de ne rien entendre. Non, il a dit « Qui es-tu, Seigneur ? » J'ai entendu. Je veux savoir. Qui es-tu ? Et Dieu parle à chacun. Et on sait bien quand il nous parle. Alors, eh bien, il faut répondre d'une manière positive. Enfin, Dieu s'est révélé à Saul de Tarse. Jésus lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Saul a vu cette lumière qui était supérieure au soleil. On peut imaginer la route de Damas, hein, assez désertique, avec un soleil de plomb, là, une chaleur torride. Et d'un seul coup, cette lumière si forte que le soleil même s'efface. Vous savez, quand on allume la lumière chez nous, si un rayon de soleil entre dans la maison, la lumière ne sert plus à rien. Hein. Mais là, imaginez une lumière supérieure au soleil, qui vient effacer le soleil. Et on ne voit même plus qu'il est là. Jésus-Christ apparaît dans sa lumière. Et là, Saul découvre que son ennemi, puisque ce Jésus était son ennemi, est en fait son Dieu. En fait, en réfléchissant à cette pensée, je me suis dit, mais peut-être ça peut être la découverte de beaucoup d'hommes qui rejettent, haïssent le nom de Jésus-Christ, mais ils ne comprennent pas que celui qu'ils rejettent, c'est leur Dieu, leur Créateur. Jésus est le Créateur. Il est le seul Dieu, le vrai Dieu, qui est venu pour nous sauver. Et il n'y en a pas d'autre. Et là, Paul peut faire mine de ne pas comprendre Jésus. Non. Mais il accepte. Il se courbe. Il dit, verset 19, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Ça signifie qu'on peut résister à la vision céleste, à la vision de Jésus-Christ, à la révélation du Fils de Dieu. Jésus s'approche de nous, il nous parle pour que ce soit clair, pour que ce soit compréhensible, il se révèle à nous, mais ensuite, c'est à nous de réagir, en fait. Hein. Soit on résiste, soit on accepte la révélation. Mais le danger, c'est que si on résiste, si on repousse la révélation du Fils de Dieu, si on se bouche les oreilles en disant « Non, je n'ai rien entendu, ça ne doit pas être vrai. Non. » Si on refuse, alors eh bien, le danger, c'est qu'on passe à côté de la révélation de Dieu et de l'Évangile de Jésus-Christ et on se perd. C'est ce que Dieu dit dans l'Épître aux Hébreux, je vais vous le lire. Il dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, c'est-à-dire qui se sont écartés, qui ont rejeté finalement cette révélation, qui n'ont pas voulu se donner au Seigneur, alors il dit, pour cela, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Et il ne suffit pas simplement de goûter un peu dans la bouche pour devenir enfant de Dieu, mais il faut avaler, il faut se nourrir du Fils de Dieu. Jésus l'a dit, il a dit « Je suis le pain de vie ». Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il ne dit pas si quelqu'un trempe les lèvres et goûte un petit peu, il vivra éternellement. Non, celui qui mange, qui absorbe, il est question de se nourrir du Fils de Dieu. Et quand je dis nourrir du Fils de Dieu, ça ne veut pas dire prendre le pain et le vin qui sont ici. Hein, parce que certaines personnes pensent que le fait de manger le pain et le vin, eh bien ça y est, j'ai la vie éternelle et Jésus est en train de me nourrir. Non, non. Jésus a dit clairement dans l'Évangile, même au chapitre 6, dans le même chapitre où il dit que celui qui me mange aura la vie éternelle, il dit que manger, c'est croire en lui. Que c'est boire, c'est venir à lui. Donc, quand on mange le Fils de Dieu, c'est qu'on mange en fait ses paroles, son enseignement, et qu'on y adhère entièrement. On dit « Oui, c'est vérité, je le crois, je l'accepte. » À ce moment-là, je mange le Fils de Dieu. Sans résistance, je me nourris de lui. Et devant la révélation du Fils de Dieu, alors eh bien, je peux soit croire et accepter pleinement, ou bien résister, mettre des réserves, mettre de côté. Il faut savoir que Dieu ne nous veut pas du mal, il nous veut du bien. Et dans ce passage des Actes, on voit ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut faire trois choses qui arrivent simultanément. Quand on vient à Jésus-Christ, en même temps, tout ça arrive. On va relire verset Actes, donc 26, versets 17 et 18. Actes 26, versets 17 et 18. Jésus dit à Saul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc on voit trois choses ici dans ce passage. La première chose, c'est qu'il veut faire passer des ténèbres à la lumière. Et quand on regarde cette expression « passer des ténèbres à la lumière », c'est une expression qui est courante. Et chacun le comprend bien, la comprend bien, comme le fait de passer d'un lieu où on ne voit pas à un lieu où on voit. Et c'est aussi une expression qui renvoie à l'idée de passer de l'incompréhension à la compréhension. C'était le brouillard, c'était l'obscurité, et soudain ça devient lumineux, ça devient très clair. Si on veut représenter Archimède, vous savez, qui a dit Eureka, on représente avec une ampoule au-dessus, et bing, ça y est, c'était obscur, et d'un seul coup c'est clair, ça devient très clair. Pourquoi ? Parce que la lumière, c'est le symbole de la compréhension, en fait. Le prophète Ésaïe dit « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel, qui s'appuie sur son Dieu. » Parce que c'est Dieu qui permet d'avoir de la lumière et donc de la compréhension. Et Dieu veut nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et ces ténèbres, ce ne sont pas des ténèbres physiques, ce n'est pas que nous sommes dans le noir physiquement et qu'on va passer dans la lumière, mais c'est plutôt l'absence de compréhension, l'absence de clairvoyance, d'un jugement juste, vrai. Et Dieu veut nous amener eh bien, dans la lumière pour que tout devienne clair, évident, que nous puissions voir. Alors, tout à l'heure, on a lu un verset des Proverbes. Je pense qu'il se recoupe avec celui-là dans les Proverbes. Il dit « La voix de l'insensé est droite à ses yeux. » Je ne sais plus, vous vous souvenez, c'était quoi le verset des Proverbes ?« Telle voix paraît droite, mais son issue, c'est la voix de la mort. Hein. » Son issue, c'est la mort. Et l'insensé, il pense, lui, que sa voix, elle est toute droite. Il est juste, il ne se trompe pas. Mais la réalité, c'est qu'il est en train de s'égarer. Il est dans les ténèbres, en fait. Il ne le voit pas. Alors, peut-être de l'extérieur, on peut se dire, mais pure folie. Mais lui, il ne le voit pas. Sa voix le conduit à la ruine. La Bible dit que notre monde, que les hommes, d'une manière générale, sont dans les ténèbres. mais que ceux qui croient en Jésus-Christ, alors Dieu les fait sortir des ténèbres et les fait rentrer dans sa lumière. C'est-à-dire qu'il les fait passer d'un aveuglement à une vision claire de la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est Dieu, c'est son esprit, c'est le Fils, c'est l'au-delà, c'est le péché qui ronge dans le cœur, c'est la vie éternelle, c'est le jugement à venir. Ça, c'est la réalité. Tout ça est la réalité. Pour vous citer un exemple, Jésus a dit à ses disciples que le monde ne peut recevoir l'Esprit de Dieu. Il a dit, parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Et Jésus dit, mais vous, mes disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous et bientôt, il sera même en vous. Et on voit la différence entre le monde et les enfants de Dieu. Les ténèbres ne voient pas tout ce qui est spirituel, en fait. Hein? Alors que ceux qui entrent en Jésus-Christ, qui se confient, qui croient en Jésus-Christ, et ceux-là, eh bien, voient. Nous voyons, pas avec nos yeux physiques, mais nous voyons le Saint-Esprit. On le voit agir dans nos vies. On sait qu'il est là et on sait qu'il est dans notre cœur. Ensuite, la deuxième chose qui est liée à la première, c'est que Dieu veut faire passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. La Bible explique que celui qui vient à Jésus-Christ est transporté d'un royaume pour être placé dans un autre royaume, celui du Fils de Dieu. Et c'est comme si on change d'autorité. On a regardé une émission avec Kimberly qui était intéressante sur la Corée du Nord. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on dit que la frontière la plus gardée au monde, c'est la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est fermé, mais alors hermétique. Hein. Et au point de passage, parce qu'il y a un point de passage, donc il y a des soldats, internationaux, hein, de tous les pays, je crois, avec plus les soldats de la Corée du Sud, et de l'autre côté, les soldats de la Corée du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la ligne de la frontière, il y a deux soldats de Corée du Nord. Mais ils ne sont pas tournés vers le sud pour surveiller. Ils sont tournés l'un vers l'autre, face à face. Deux soldats face à face. C'est assez curieux. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont peur qu'il y en ait un qui passe au sud, qui change d'autorité, en fait. Donc, s'il y en a un qui bouge, l'autre le tue. Vous voyez un truc ? Et c'est ça, c'est vraiment changer d'autorité. Hein. C'est passer d'un royaume dictateur, violent, cruel, à un royaume où on respecte la personne. C'est tentant hein, de passer vite fait de l'autre côté. Et Dieu, c'est ce qu'il fait. Il nous fait passer d'un royaume à un autre, du royaume de Satan, de l'autorité de Satan, parce qu'il a vraiment une autorité sur les hommes qui ne se repentent pas, à une autre autorité, un royaume qui vient nous protéger, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le monde qui n'a pas cru en Jésus-Christ n'est pas sous l'autorité de Dieu, même si Dieu est au-dessus malgré tout, hein, mais Dieu permet que son autorité, ce soit Satan. Jésus a dit à des religieux juifs, « Vous avez pour père le diable. » Attends. On aurait pu dire, mais des criminels, des voleurs, des gens innommables, d'accord, mais pas des religieux. Non, non, il dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi ? Parce que vous péchez. Parce que vous péchez et parce que vous n'avez pas réellement donné votre vie par la foi à l'Éternel, votre Dieu. Vous ne croyez pas vraiment en lui. Alors, eh bien, même si vous êtes religieux, la réalité, c'est qu'à cause de votre péché, vous êtes sous l'autorité de Satan. On pourrait croire, se dire, mais en fait, Hitler, Staline étaient sous l'autorité de Satan, mais pas le commun des mortels. Ben non, la Bible dit que celui qui pêche a pour père le diable, et donc il est sous l'autorité de son père. Mais Dieu veut nous faire passer sous son autorité, il veut nous affranchir de cette mauvaise autorité, cette autorité qui ne nous veut pas du bien. C'est un peu comme la Corée du Nord, hein, et son dictateur. Il ne veut pas de bien à son peuple. Il ne leur veut que du mal. Satan, c'est pareil. Il ne veut que du mal à ceux qui sont sous son autorité. Enfin, troisième chose, c'est que Dieu veut nous accorder le pardon des péchés et l'héritage, le ciel, avec les sanctifiés. Et le fait d'être dans les ténèbres, sous l'autorité du diable, ça nous conduit irrémédiablement à pécher. Et on pêche en action, on pêche en parole, on pêche même en pensée. Et ces péchés s'accumulent au-dessus de nos têtes comme tous autant de raisons, tout autant de raisons de nous condamner. Le péché ne peut pas être toléré dans la présence d'un Dieu qui est saint, qui est pur, qui est parfait. Mais le Fils de Dieu, il est dit, il est venu pour nous accorder le pardon par la foi en lui. Quand on croit en lui, on est pardonné. Et si on ne croit pas, on est condamné. Dieu veut que l'homme croie en son Fils bien-aimé. Et c'est simple. Certains diront même, mais c'est trop simple. C'est quoi ? Simplement croire et c'est tout ? Ben oui, croire et c'est tout. Maintenant, il y a croire et croire. La Bible dit que les démons croient en Dieu. Mais elle dit, ils tremblent parce qu'ils vont aller en enfer. Alors, si vous croyez comme ça, c'est-à-dire si vous croyez que Dieu existe, ça ne suffira pas. Hein. Ce n'est pas la foi qui sauve ça. Paul dit, au verset 20, donc acte 26, verset 20, il dit, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Et la vraie foi, c'est la foi qui implique la repentance. Est-ce que nous nous sommes repentis vraiment de nos péchés ? Pour être pardonnés, il est nécessaire de se repentir. Si par exemple, je pêche dans un domaine, se repentir, c'est quoi ? C'est d'abord le confesser à Dieu, lui dire « j'ai péché, j'ai fait ça ». Et puis, c'est ensuite ne pas vouloir continuer dans ce péché. C'est ça, se repentir vraiment. C'est se convertir à Dieu. C'est faire un demi-tour. C'est renoncer à continuer dans son péché. La conversion, elle implique toujours un demi-tour. Quand l'apôtre Paul a parlé aux Thessaloniciens, je vous le cite, en 1 Thessaloniciens 1,9, il est dit « Car on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu » en abandonnant les idoles pour vous tourner vers le Dieu et pour servir le Dieu vivant et vrai. Abandonner les idoles, c'est ça, se repentir. C'est, on sait que ce n'est pas bon, on abandonne, on se détourne et on se tourne vers Dieu. Si vous continuez dans votre péché tous les jours sans qu'il y ait eu un changement dans votre vie, alors vous n'êtes pas converti à Dieu. Vous n'êtes pas encore converti à Dieu. Parce que la conversion, elle implique d'abandonner ce que l'on sait qui est coupable. On cesse de faire le mal et on se met à vouloir faire le bien. Paul parle de la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et la vraie repentance, elle se voit. Si on est désagréable, on cesse d'être désagréable. Si on est malhonnête, on cesse d'être malhonnête. Si on est violent, on cesse de l'être, etc. Et on va peut-être commencer pour la première fois de sa vie à être honnête, agréable, doux. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous transformer par son esprit. Et quand on s'est vraiment donné à Jésus-Christ, alors l'esprit commence à agir dans notre cœur. Et il nous pousse vers ce qui n'était pas nous, en fait. Une personne qui commence à faire les choses comme il faut, comme Dieu veut qu'elles soient, poussées par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites rechutes, mais la grâce de Dieu nous pousse et il y a un désir d'aller vers la sainteté. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Il dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous soyez désapprouvé. S'il n'y a pas eu de changement, s'il n'y a pas d'amélioration de caractère, s'il n'y a pas un désir de sainteté, s'il n'y a pas un dégoût pour le péché, si rien n'a changé, alors c'est que rien n'a encore été fait et qu'on ne s'est pas encore repenti, vraiment fait demi-tour et on n'a pas demandé à Dieu qu'il change notre cœur et notre vie. Mais la porte, elle est grande ouverte, elle est toujours ouverte aujourd'hui. Et la main du Seigneur, elle est toujours tendue, comme ça. Il suffit de venir à lui. Il suffit de croire en lui avec une vraie repentance. Une vraie repentance qui entraîne un changement d'œuvre, une volonté de commencer à faire ce qui est bien. Alors, eh bien, notre texte nous montre deux hommes qui vont être placés devant ce message de Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez Actes 26, versets 24 et 25. « Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner. » Paul répond, « Je ne suis point fou. Très excellent, Festus, toujours avec respect. » Répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Et on a ici une première réaction possible. Ce message est fou, c'est une folie, c'est n'importe quoi. C'est stupide, croire à cet homme, Jésus-Christ, crucifié, pour eux c'était quelques décennies avant, pour nous c'est 2000 ans avant, c'est une folie. Ça n'a pas de sens. Et ça c'est une réaction courante. On pense que les chrétiens, ce sont de doux rêveurs, que Jésus, il ne peut pas sauver quelqu'un de ses péchés. Ce n'est pas possible, surtout comme ça, aussi facilement. Mais Paul dit aussi ailleurs que la prédication de la croix de Jésus-Christ est une folie. Il le dit, il dit lui-même, c'est une folie. Mais il ajoute, pour ceux qui périssent, c'est une folie, parce qu'ils n'ont pas cru et ne veulent pas croire. Alors, eh bien, ils sont encore dans les ténèbres, ne voient pas. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Ils sont sous la domination de Satan qui les aveugle et veut les empêcher de voir. Mais pour nous qui sommes sauvés, dit Paul, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu, une puissance libératrice qui délivre. Et ce message de Jésus-Christ, de l'Évangile, il est contraire à sage, intelligent, sensé, raisonnable pour ceux qui se repentent et croient. Regardez une autre réaction maintenant. Paul poursuit versets 26 à 28. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Agrippa ne dit pas, « Tu es fou, Paul, tu dis n'importe quoi. » Mais il est touché dans son cœur. Il est touché par la pertinence des propos de l'apôtre Paul. Dieu est en train de lui parler avec un langage qui lui est compréhensible. Il entend, il sait. Il sait que c'est la voix de Dieu qui est en train de lui parler. Et son cœur commence à croire en Jésus-Christ. Va-t-il s'autoriser à aller jusqu'au bout? C'est ça la question. Hein? Quand on arrive aux portes du salut, il y a un combat. Un combat dans notre cœur. On sait que c'est la vérité. Et on se dit, mais oui, c'est vrai, mais je le crois, je veux le croire. Et on veut se donner à Jésus-Christ. Et de l'autre côté, bien, il y a le diable qui lui dit, non, c'est pas vrai, arrête. Ne va pas dans cette voie-là et qui veut nous détourner de la vérité. Et là, ben, il faut faire un choix. Arrive un moment, il faut faire un choix. On passe tous par là. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, Agrippa? Est-ce que, ici, sa foi, qui est aux prémices, va être passagère et va disparaître? Ou est-ce qu'il va avoir une foi profonde qui va engendrer la repentance et un changement de vie, un changement d'œuvre? Est-ce que Agrippa va faire un demi-tour, se repentir de ses péchés et les abandonner? En fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé pour Agrippa. J'espère, on peut espérer qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il s'est converti à Jésus-Christ, qu'il a fait cette prière de repentance. Et peut-être on le verra au ciel. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas Festus ou Agrippa, mais c'est chacun d'entre nous. Nous sommes responsables de ce que nous avons entendu. Nous sommes responsables ce matin de ce que nous avons entendu. On ne peut pas ressortir et se dire « Ah ben, j'ai rien entendu ». Non, on l'a entendu, on le sait maintenant. Alors, eh bien, on est responsable. Alors, eh bien, il faut soit croire et se donner, soit résister et repousser. Et j'aimerais vous donner l'occasion de croire ce matin. Si vous le voulez, alors vous pouvez faire une prière. J'aimerais vous accompagner dans une prière. On va s'incliner courtement. Si vous voulez bien juste fermer les yeux, baisser la tête. Et si vous savez dans votre cœur que ces paroles sont des paroles de bon sens, pleines de vérité, ne vous laissez pas distraire par l'ennemi de nos âmes qui ne veut pas qu'on vienne à Jésus-Christ. Et dites-lui, ça n'engage que vous, dans votre cœur. Dites à Dieu, dites à Jésus-Christ, j'ai entendu. Dites-lui dans votre cœur, j'ai entendu. J'ai besoin d'être pardonné. Dites-lui, pardonne mes péchés, je t'en prie. Éclaire-moi. Mets-moi dans ta lumière. Je veux être sous ton autorité. Sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je te remercie de me sauver maintenant. Amen.